Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à tous, nous voici revenus donc dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM avec un sujet, le sujet de la semaine, c'est la tournée du climat et de la biodiversité avec nos invités Fanny Thibert qui est en face de nous et puis Claire Renvoisé qui est au téléphone. Vous nous entendez Claire ?
Oui, tout à fait, bonsoir. Bonsoir à tous.
Parfait Claire, eh bien écoutez, on vous passera la parole tout à l'heure. Donc écoutez, cette semaine, Ben, tu vas pouvoir nous faire ta chronique internationale. Voilà, c'est ça, je ne savais plus qui devait commencer, mais c'est toi forcément.
Forcément. Il y a toutes sortes de choses à dire. Notamment une réflexion purement philosophique sur la France.
Dans le monde ?
Oui, la France dans le monde. Oui. Elle est considérée quand même comme l'un des pays qui se croit très très jeune et qui quand même est de plus en plus...
Vieille.
Voilà.
Tu as trouvé. Pour faire simple. Et alors ?
Ah ben,
c'est le scoop de la semaine, camarade ?
Non, le scoop de la semaine, il est ailleurs. Il est ailleurs.
Ah, tu vas nous annoncer la liste du gouvernement ?
Non, je vais vous parler de Sarah Mulally.
Ah, on t'écoute.
Sarah Mulally, vous ne savez pas qui c'est, probablement. Non. Mais bon, vous savez tous quand même qu'il n'y a pas d'écologie sans un minimum d'apport du féminisme depuis pas mal d'années. Oui. Or, Sarah Mulally vient d'être nommée chef de l'Église anglicane.
Ah.
C'est donc la future...
Papesse.
Archevêque de Canterbury.
Ok, et alors ?
Et voilà, ça c'est quand même quelque chose qui vous a peut-être échappé dans les nouvelles du jour, mais ça change quelque chose dans la mesure où l'Église anglicane est un peu plus progressiste.
Donc féministe.
Sur la question du genre, comme on dit aujourd'hui.
Oui, mais est-ce que ça a un rapport avec l'écologie ?
Et complètement, complètement.
D'accord.
Justement parce que...
Pourquoi ?
François, c'est ce que j'essayais de...
De me faire comprendre.
De susciter quand même, voilà, ton intérêt, jusqu'à quel point la question écologique est profondément liée à l'essor du féminisme.
Alors, on me le répète, j'ai essayé de le comprendre, tout ça... je crois qu'on va le mettre sur le programme d'émission, une émission forcément d'ici, je ne sais pas, un mois, deux mois, sur l'écoféminisme. Je veux tout comprendre sur le sujet.
Donc il faut qu'on fasse une émission spéciale là-dessus.
Voilà, c'est ça. Mais donc, on ne va pas en développer plus ce soir.
Non,
Macho terrible, mais...
Mais je vais quand même aussi t'annoncer quelque chose au niveau d'un autre scoop. Et c'est demain.
Ah.
C'est l'attribution du prix Nobel de la paix.
Ah, à Donald ?
Non, c'est pas Donald. Donald n'a aucune chance.
Bon, tu me rassures.
Mais justement, il y aura peut-être des nouvelles intéressantes et qui vont également nous permettre d'en parler la semaine prochaine.
D'accord.
Voilà le...
Alors, c'est ton tour du monde de la semaine.
Un tour d'horizon qui est pas terminé.
D'accord.
Mais on
tu
a
fais
aussi...
signe dès que tu as terminé.
Non, pas du tout. Non, c'est... Je pense que c'est important pour nous de réaliser jusqu'à quel point toutes ces questions-là, qui ne sont pas officiellement des questions écolo, font aussi partie du
grand écosystème, de l'approche holistique, c'est ça, de l'écologie, il faut...
Je te donne un exemple, François.
Oui.
En 1988, le Time Magazine a sorti...
A fait de la Terre l'homme de l'année.
C'était l'homme de l'année. Mmh. On ne pourrait plus dire ça aujourd'hui.
Oui.
Voilà.
Je
te laisse méditer.
Ok, d'autant que ça a été une des raisons de mon engagement dans le journalisme environnemental avec le Times, ou du moins ça m'a permis de convaincre mes rédacteurs chefs qu'il fallait s'y intéresser. En tout cas, ça ne nous rajeunit pas. Alors moi, Donc avant qu'on présente nos invités, je voulais revenir sur ma rubrique habituelle sur les nouvelles de Roqueclore. Mais bon, comme depuis 3 semaines, je suis encore en chômage technique, vous l'aurez tous compris. Même si...
Pourquoi elle est toujours démissionnaire, notre ministre?
Je crois qu'elle elle a pas beaucoup de choix et malheureusement... c'est pas elle qui a les rênes de l'attelage, on va dire. Donc on saura ça plus tard. Mais bon, il s'est passé des choses à l'hôtel de Roqueclore, donc boulevard Saint-Germain. Il y avait la semaine dernière la présentation des start-up, l'esprit start-up environnemental ou écologique à la française, et j'y ai trouvé pas mal de choses intéressantes, mais je garde le suspense jusqu'à une prochaine émission où on traitera ce sujet-là d'ici la fin de... avant Noël. Mais bon, ceci étant, comme je vous le disais, on est un peu en chômage technique, donc j'ai remplacé la rubrique de l'agenda de la ministre par une revue de boîte mail. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma boîte mail aujourd'hui? J'ai au moins deux infos qui m'ont interpellé, on va dire. Alors, bon, pour gérer le petit côté sympa, il y a Paul Watson qui va être nommé citoyen d'honneur de la ville du Coudray Monceau dans l'Essonne. Bon, je pense qu'effectivement, c'est sympa. Après avoir été débouté de son droit du statut d'asile...
De réfugié politique.
Réfugié politique français. Bon, il y a une commune de l'Essonne qui en fait un citoyen d'honneur. C'est quand même bien important. En tout cas, ça permettra aussi de rebondir sur la prochaine émission qu'on fera sur les océans que Ben nous prépare. Et puis l'autre sujet qui m'a un peu interpellé, alors ça vient toujours de l'Essonne, c'est le génopôle d'Évry-Courcouronnes qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'il y avait un grand rassemblement de start-up aux Pays-Bas sur la production de protéines, de la viande de labo. Donc ils sont tout excités sur créer des nouvelles entreprises de production de protéines végétales en laboratoire. Donc on c'est pareil. Alors on aura Théo capitaine, un de nos prochains chroniqueurs qu'on vous présentera très vite, mais d'ailleurs qui est avec nous ce soir dans le studio, qui posera une question tout à l'heure, j'espère, en tout cas c'est ce qu'on lui a demandé, qui prépare donc une émission sur ces sujets-là. Pourra-t-on avoir une agriculture sans terre? Et puis en attendant, la prochaine qu'on fera, c'est le 26 novembre, si je ne me trompe pas, le sujet sera: pourra-t-on faire une agriculture sans chimie? Donc voilà.
Bon. Il y a aussi un rassemblement ce week-end sur le monde associatif.
Oui, ça c'est vrai. Voilà, c'est très important, le monde associatif qui est
en crise.
Oui, comme tout le monde, mais effectivement peut-être encore plus que d'autres. C'est un petit peu le tiers état de l'économie française, mais c'est quand même 10% du salariat du pays. Et alors, par contre, ça doit être à peine un millième du temps d'antenne consacré ou des rubriques économiques à la télé, dans les médias. Je crois qu'on parle pratiquement jamais de l'économie sociale et solidaire ou l'économie associative.
C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir place de la République samedi matin.
Ben, on te remercie, les millions d'associations te remercient. Et donc, on va pouvoir passer donc à nos invités, à Fanny et puis à Claire Renvoisé. Donc, Fanny Thibert, vous êtes là, représentante de la tournée du climat et de la biodiversité. Alors, expliquez-nous ce que c'est que cette tournée.
Oui, bonjour à tous. Donc, la tournée du climat et de la biodiversité, c'est d'abord une exposition scientifique qui porte sur ces deux sujets, le climat et la biodiversité, et à part égale et de manière reliée. À chaque fois qu'un lien peut être fait entre ces deux thématiques, il est fait au sein de l'exposition.
Qu'il est parfait dans la vie en général, c'est ça ?
Si, évidemment, les deux thématiques sont totalement liées. C'est pour ça qu'on a décidé de les mettre ensemble dans une exposition. D'ailleurs, les contenus ont été faits avec le Muséum National d'Histoire Naturelle.
Notre voisin.
Tout à fait. Et la particularité de notre exposition, donc avec laquelle on se rend sur tout le territoire, c'est qu'on propose des visites guidées avec des scientifiques. Donc on ne vient pas, on peut le faire si on veut, mais le principe, ce n'est pas de lire seulement des panneaux d'exposition, mais bien de suivre une visite guidée, et même plutôt que de suivre, échanger avec un scientifique pendant une heure sur l'exposition et ses contenus. L'exposition, elle est divisée en trois parties. C'est un cheminement qui va de l'explication des mécanismes scientifiques sur les deux thématiques jusqu'aux solutions, en passant bien sûr par le rôle de l'être humain sur les changements en cours et comment en fait on peut trouver des solutions individuelles et collectives.
Alors qui a eu cette idée de faire une exposition sur ce sujet du climat? Bon, c'est vrai qu'on va bientôt avoir...
Non, climat et...
biodiversité, c'est vrai, j'ai noté.
Bien appris.
Bon, bien Ben. Il n'empêche que les COP, que ce soit du climat ou les COP biodiversité, ont 30 ans. Qu'est-ce qui vous prend de faire ça aujourd'hui? Pourquoi si vite?
Alors, pour remonter à l'origine exacte du projet, c'était en 2015, au moment de la COP 21, où des climatologues toulousains, donc Serge Planton, qui est toujours notre responsable scientifique, Christophe Cassou et Catherine Jandel, ont eu l'idée de proposer une animation de médiation scientifique au moment de la COP. La plupart des événements se passaient à Paris, voulaient proposer quelque chose en région, sur le territoire, donc l'idée de l'itinérance est né, et à l'époque, c'est un train du climat qui a été monté et qui a circulé pendant 3 semaines. Il y a eu plusieurs projets qui se sont suivis.
Il fallait délocaliser tout ça. C'est
oui. Très bien. Donc, cette exposition circule dans différentes villes, peut-être en Île-de-France. Pouvez nous citer quelques villes?
Tout à fait. Donc, la tournée en tant que telle, donc, qui lie pour le coup désormais les deux thématiques, a commencé en octobre 2023. La première étape, c'était Saint-Denis. Depuis, on en est à la 32e étape. Et par exemple, en ce moment, l'exposition était jusqu'aujourd'hui à Évry et jusqu'après-demain à Gennevilliers.
Donc, on peut encore se précipiter et aller voir l'exposition pendant... On a 2 jours pour la découvrir à Gennevilliers.
Alors, à Gennevilliers, c'est une étape un peu particulière. C'est une expérimentation qu'on a faite au sein de l'INSPE de l'Académie de Versailles, avec une formation en fait, des étudiants qui sont dans un parcours de médiation scientifique, d'apprentissage de la médiation, pour leur permettre d'expérimenter grandeur nature la médiation avec un public après avoir été formé par nos scientifiques.
Et alors moi, si je suis au jardin, au musée d'histoire naturelle, pour avoir cette visite guidée, je ne peux pas?
Alors, la plupart de nos visites sur tous les lieux jusqu'à aujourd'hui à Évry sont gratuites et ouvertes au grand public. À Gennevilliers, voilà, comme c'est vraiment tourné vers les étudiants du site, c'est un petit peu particulier. Mais on aura bien sûr de nouvelles dates. Vendredi, d'ailleurs, notre responsable scientifique Serge Planton est à Toulouse, à l'Université de Toulouse.
Et annoncera la nouvelle tournée, alors, si j'ai bien compris.
Alors, elle est en construction, cette nouvelle tournée pour 2026. Et donc, on reçoit beaucoup de demandes et elles sont encore ouvertes. Vous pouvez vous adresser à nous pour accueillir l'exposition dans votre ville.
D'accord. Mais avant, on va déjà parler de...
Il faut s'inscrire, quoi.
Non, mais on va déjà parler de Gennevilliers, puisqu'on a Claire Envoisé au téléphone. Vous nous entendez, Claire?
Tout à fait.
Ah, parfait. Alors, expliquez-vous, parce que vous êtes faites partie de l'INSEP, c'est ça? Alors, si j'ai revu...
Pas d'acronyme.
C'est les anciens IUFM, si on parle en siècle dernier, en français du siècle dernier, c'est les écoles normales, c'est ça?
Oui, alors à peu près, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, donc l'INSPE de l'Académie de Versailles regroupe plusieurs universités, dont Évry, Nanterre, Cergy, Paris-Seine, qui accueille la tournée du climat et de la biodiversité, parce que Cergy, l'université de Cergy, a plusieurs sites de formation. Et Gennevilliers est un de ces sites de formation.
Donc, elle formation des instituteurs, donc, si on, ou des professeurs, voilà, alors, professeurs des écoles, comme on doit dire maintenant.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, nous avons effectivement plusieurs formations, notamment professeurs des écoles, hein, mais aussi professeurs du second degré, mais aussi tout ce qui relève de voilà, tout à fait, du collège lycée, mais de l'ingénierie aussi pédagogique, tout ce qui est conseil et éducation, on développe ces formations. Enfin, elles sont sur le site de Gennevilliers en particulier. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que là nous avons des licences deuxième année qui font partie du parcours sciences enseignement médiation. Majoritairement, ils se destinent au métier de prof des écoles, mais certains veulent devenir médiateurs scientifiques ou ce qu'on appelle les conseillers principaux d'éducation dans les collèges ou les lycées.
Les surgés, quoi.
Oui.
Non, mais bon, j'ai arrêté les blagues. Voilà, c'est ça. Mais bon, par contre, effectivement, vous, sur la tournée du climat, vous êtes plus en représentant en tant qu'utilisatrice que conceptrice, si je comprends bien.
Alors, oui, enfin, bien évidemment, nous n'avons pas conçu la tournée du climat et de la biodiversité, puisqu'effectivement l'expo est itinérante et il y a tout un équipement assez conséquent. En revanche, nos étudiants ont été formés par les scientifiques et maintenant ils accueillent, et nous ne sommes pas en petit comité, nous accueillons régulièrement des classes pour justement passer ce témoin auprès des plus jeunes. C'est-à-dire que nos étudiants assurent une médiation scientifique auprès de classes de cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2.
D'accord. Ok, donc grosso modo, la question, c'est comment former les profs et les instits à ces questions-là pour qu'ils puissent transmettre aux enfants. Bon, maintenant qu'on a compris à peu près le sujet, on va écouter une petite pause musicale et puis on rentrera tout à l'heure après la pause musicale dans le questionnement et comment ça marche et puis le pourquoi. Et puis qui vous êtes aussi. Je crois qu'on a une petite surprise à annoncer. Donc quand je dis qui vous êtes, c'est pour l'association. bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie. Alors naturellement, tout le monde a reconnu le Guitar Boogie de Arthur Smith, qui date de 1948 quand même. Ça ne nous rajeunit pas, donc c'est pour vous montrer quand même que même les vieux avaient des musiques un peu dynamiques. C'était pour annoncer la prochaine musique, vous verrez, une musique de jeunes, mais bon, on pourra reparler de tout ça tout à l'heure. Alors, pour en revenir à la tournée du climat, donc on a à peu près compris de quoi il s'agissait. Donc, pourquoi faire une exposition aujourd'hui ? Entre guillemets, ça fait longtemps qu'on en parle du climat maintenant. Qu'est-ce qui a suscité l'envie, alors, à votre association dont vous allez... que vous allez nous présenter, de faire cet effort de faire une exposition qu'on aurait pu trouver à la Villette, qu'il y a plein de documentaires aujourd'hui sur le climat, sur l'écologie.
Et quelle est l'accroche actu ?
Ah, actu, peut-être pas, mais bon, allez, Fanny, oui. Dites-nous tout. Le pourquoi du comment ?
Alors déjà, l'itinérance de cette tournée qui nous permet d'aller sur tout le territoire, et on choisit de s'inscrire soit dans des événements, soit dans des lieux portant sur les transitions en général, au sens large. Et pourquoi on fait ça ? Parce que c'est très important pour nous que les visiteurs, à l'issue de l'exposition, sur des sujets qui, effectivement, sont pas toujours légers, puissent avoir accès à des solutions, à des acteurs qui se mobilisent près de chez eux. Donc on va toujours dans des événements où il y a des associations qui proposent de passer à l'action.
Vous nous avez parlé d'un directeur scientifique dont j'ai pas encore réussi
Serge Planton, qui est notre responsable scientifique.
Alors, qui fait partie des créateurs de la tournée. Mais pourquoi Serge Planton à Toulouse ? Bon, j'imagine qu'il y a le centre de météo, ça doit être un peu lié. Pourquoi, en 2015, il a voulu lancer ce travail de médiation ?
Donc Serge Planton était climatologue à Météo France et investi chez Météo et Climat, qui est l'association, c'est important de le dire, qui héberge notre projet, donc qui est au sein de ses activités. Et Météo et Climat est une association qui existe depuis longtemps, depuis 1852.
Oui, beaucoup plus récemment que l'émission Météo-Climat qu'on voit sur France 2.
Bah, d'ailleurs, l'évolution du format du bulletin météo en Météo et Climat, c'est aussi les climatologues qui ont permis de la créer.
De pousser les journalistes à enfin en faire une chronique.
De faire des capsules sur le climat pour mettre en avant en fait.
Alors vous datez pas de l'année dernière, donc depuis quand existe l'association ?
Depuis 1852, à l'époque, c'était une société savante, la Société savante de météorologie. Et Météo et Climat, aujourd'hui, c'est une revue, la météorologie. C'est une journée scientifique, par exemple, qui va avoir lieu au mois de décembre, qui va lier les enjeux climat et santé. C'est très important, puisque les conséquences de la lutte contre le changement climatique ne sont pas toujours visibles. Et sur la santé, c'est le cas. Et donc, c'est important.
Donc, le thème de l'année cette journée, ce sera la santé. Et vous pouvez nous donner la date exacte de cette journée, ça nous intéresse.
Ce sera le 10 décembre et toutes les informations sont sur le site de Météo et Climat.
D'accord. Claire, voulez-vous rajouter quelque chose depuis Gennevilliers ?
Donc, depuis Gennevilliers, ce que je voulais ajouter surtout, c'est qu'il me semble que ce qui était primordial, c'est de rendre acteurs nos enseignants de demain, pour aussi qu'ils passent le témoin des engagements. Et ce que disait aussi Fanny, c'est qu'il y a des solutions, c'est-à-dire que il y a quand même dans l'exposition des moments difficiles pour des enfants de 9-10 ans, où on leur parle de disparition d'espèces, on leur parle de quand même de tragédie avec des mots quand même choisis, mais qu'à la fin, il y a des solutions, ce que disait Fanny, et c'est vrai qu'avec un art des solutions, qu'ils complètent eux aussi, et d'ailleurs, Fanny, tu pourras récupérer les solutions des enfants accrochés sur l'art des solutions. Voilà, donc l'idée que c'est un prolongement des scientifiques, mais qui va jusqu'au plus jeune. Et c'est ce qui me semble qui est intéressant dans cette exposition et ce parcours.
Alors justement, comment ils réagissent les enfants quand on leur annonce, pas la fin du monde, mais quand même des catastrophes
Alors, nous, sur l'exposition, on peut recevoir sur une même journée des enfants à partir du CM1, des adultes, des adolescents, des adultes, des associations, des décideurs, des élus. Et comment c'est possible ? C'est possible grâce à nos chercheurs, en fait, qui font cette médiation, qui s'adaptent au niveau, aux connaissances, à l'âge des personnes en face d'eux. Et donc, bien sûr, la présentation pour les enfants est adaptée en fonction de leur âge. Et on n'insiste pas sur les mêmes aspects. Toute la partie aux conséquences qui peut être un peu anxiogène, on la passe très rapidement pour les enfants. L'important, c'est d'expliquer
les conséquences. C'est un peu une exposition conférencière. Je ne sais pas si le terme existe, mais c'est une exposition vivante avec un guide qui est plus qu'un guide. C'est un vrai conférencier.
Plus vivante que conférencière.
D'accord.
Parce que ce qui est hyper important pour nous, c'est que dans l'exposition, on les appelle les messagers, nos scientifiques, et c'est très important parce qu'on a choisi ce nom parce que la connaissance circule. Il y a un passage de relais, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les étudiants à Gennevilliers, c'est vraiment l'idée. Et donc, il n'y a pas de... C'est pas descendant comme une conférence, c'est très participatif, ça se nourrit des questions des visiteurs. Et donc, c'est plutôt une discussion, un échange.
Donc c'est, par contre, tous ces messagers sont des scientifiques patentés, des bacs plus X. Ce n'est pas des intérimaires comme à Matignon, par exemple.
Alors, tous nos scientifiques, et depuis 2023, on en a réuni 109. On a actualisé le chiffre aujourd'hui. On a une communauté de 109 scientifiques à qui on annonce les dates de chaque événement, qui se positionnent dans toute la France, qui sont bénévoles, c'est important, qui sont tous chercheurs, mais de tous les âges. On a autant des doctorants, des post-doctorants, des gens en exercice ou des émérites. Et c'est important aussi pour le public, pour les enfants notamment, de voir cette diversité, de sortir un petit peu des idées préconçues qu'on pourrait avoir sur à quoi ça ressemble un scientifique, comment ça s'exprime. Et c'est important, on a autant de femmes que d'hommes dans ces scientifiques.
Bravo.
Donc pour la représentativité et la projection des enfants, c'est important.
D'accord. Alors... des questions, il y en aurait mille. Peut-être que Ben, t'en as une.
Moi, j'en aurais plein, mais moi, je voudrais juste savoir quelles sont pour vous les plus grandes failles possibles dans ce genre de travail. Est-ce que vous avez l'impression de temps en temps que vous n'arrivez pas à transmettre vraiment les informations?
Je pense que c'est un travail complémentaires, comme je le disais, par exemple avec les associations qui se mobilisent ou les collectivités, parce que ce qu'on présente comme solution au sein de l'exposition, c'est soit des solutions individuelles ou collectives. Et donc, on passe ensuite le relais aux acteurs du territoire, aux collectivités qui nous hébergent pour porter ces solutions. Et Claire faisait allusion à un élément important de l'exposition qui est l'arbre des solutions. En fait, on propose à la fin de l'exposition un arbre où tous les visiteurs peuvent écrire une proposition, une idée, une solution, et on l'offre symboliquement, mais pas que, au site qui nous héberge. Je dis pas que parce que en fait, on a plusieurs collectivités qui ont analysé les propositions dans une logique de démocratie participative pour les transformer en actes.
D'accord, écoutez, on regardera ça. Mais donc, grosso modo, l'exposition est à la fois accessible à des enfants de CM1, CM2, qu'à des étudiants.
Exactement. On organise aussi des groupes, des visites pour des groupes spécifiques, par exemple des éco-délégués. On est à Évry toute la journée encore, et depuis 3 semaines, en fait, dans le cadre des semaines européennes du développement durable, on a eu plusieurs étapes comme ça en parallèle. Pendant 3 semaines, on a été à Évry dans 3 quartiers différents, avec une autre version de notre exposition, plus légère, qui a pu circuler dans tous les sites. Et donc aujourd'hui, on avait un groupe de collégiens d'éco-délégués, et on apprécie que ce soit un groupe à part entière qui a droit à une visite un peu sur mesure, parce qu'ils sont particulièrement intéressés, ils vont avoir des questions qui vont plus loin, et donc on s'adapte.
Alors, j'ai une petite surprise, dans le studio on a Théo Capitaine, un futur chroniqueur, mais qui venait là pour voir comment ça allait fonctionner, et qui se trouve être étudiant à... Bah, il va se présenter, puis il va nous le dire, à Fontainebleau. Comment il pourrait faire avec... Alors, il m'expliquait qu'il travaillait, qu'il était un peu médiateur à la fac. Théo, si tu avais envie de faire venir l'exposition à Fontainebleau alors vas-y, explique-moi, c'est quoi une fac, un master?
Oui, déjà bonsoir. Donc moi je suis étudiant en master donc de sciences politiques en transformation socio-environnementale. Donc,
c'est une cible évidente.
Parfaitement, une cible évidente. Et c'est vrai que moi je suis un étudiant qui suis dans une fac qui est particulièrement intéressée par ces problématiques, mais j'avais une question justement. Tout à l'heure, vous parliez de formation auprès d'étudiants. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que, de manière générale, les connaissances de base que peuvent avoir les étudiants ou même, de manière générale, les publics que vous touchez augmentent sur la question climatique, ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que ça a régressé, puisque quand même, un des constats qu'on fait depuis quelques mois et quelques années, c'est une contestation de la science au profit parfois d'informations mensongères, erronées. Donc voilà, est-ce que vous trouvez que les connaissances de base sur ces sujets-là augmentent ?
Alors, les connaissances sont extrêmement variables. On touche des populations très diverses dans certains événements. On est dans une foire horticole, par exemple, ce qu'on a fait à Lille l'année dernière. Donc, en fait, on a un public qui a fait ses achats en plantes et qui vient voir l'exposition, ce qui n'est pas exactement la même chose que les biennales de la transition qui ont lieu à Grenoble au mois de mai, où on était aussi, où là, il y a un public très engagé. Donc, c'est très variable. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a toujours une même base, une même nature de biais dans la compréhension des mécanismes scientifiques ou d'intox à démentir ou à réexpliquer. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important d'avoir cette rencontre en réel, en physique, à l'heure de l'information ou sur les réseaux sociaux notamment, où on est dans des bulles informationnelles, où on peut mettre au même niveau des connaissances scientifiques ou des opinions. Donc pour nous, c'est très important d'avoir la probité du scientifique en face de soi.
Vous avez un exemple ?
Allegre FM 93.1.
Un exemple d'un oui, tout à fait. Il y a une phrase qui est citée dans l'exposition qui attribue au GIEC le fait qu'il n'y aurait que 3 ans pour agir et qu'après ce sera trop tard. Et en fait, ça typiquement, c'est une phrase, une information qui a beaucoup circulé. C'était évidemment pas ce qu'avait formulé le GIEC. Et en le simplifiant autant, ça peut créer aussi un peu de désespoir et de désarroi. Donc ça, on
l'éco-anxiété, le fameux sujet dont on parle. Oui. Alors, donc effectivement, ces intox, ces entre guillemets, ces possidés, ces mauvaises représentations culturelles, comme dit Philippe Grandcola du CNRS, quelles sont celles que vous avez identifiées, grosso modo, ces mauvaises idées à fracasser, quoi.
Il y a notamment la responsabilité des différents États par rapport au changement climatique, où on a toujours peut-être tendance à considérer que notre État, finalement, d'un certain point de vue, est pas si responsable, et donc ça nous dédouane d'agir. L'exposition dans la partie solution montre justement la responsabilité historique, aussi les émissions qui sont importées par tout ce qu'on achète de Chine, et donc remet en perspective tous ces éléments-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... c'est pas grave d'avoir ces idées préconçues. Ce qui est important, c'est de venir en discuter. Et il n'y a pas de mauvaise question. On ne cesse de le répéter dans l'exposition. L'idée, c'est d'échanger. Et le pire, en fait, ce serait de garder ces idées-là.
Oui, on peut avoir on peut faire des erreurs, à condition de savoir les corriger. Mais bon, ce qui n'est pas le cas de tous les climato-sceptiques très carbonés, quoi.
Et justement, le format de la visite, où on a une quinzaine de personnes autour de scientifiques, est propice à la parole, à l'échange. Et là, ça change vraiment d'une conférence où on n'ose pas poser sa question au milieu
Éclair, oui, vous avez assisté à des, entre guillemets, des révélations comme ça, de soit d'enfants, soit d'enseignants, soit d'autres personnes qui se disent « Ah, ben ça, je croyais juste le contraire.
» Ce qui est surtout assez flagrant quand on accueille les élèves, et aussi nos étudiants ont été assez étonnés au début. Effectivement, il y avait le côté responsabilité ciblée sur la Chine, les États-Unis, etc. Et donc, l'exposition permet vraiment de relativiser, enfin, de mettre à distance, de prendre du recul. Mais au-delà de ça, ce qui a été surprenant, c'est que dans l'exposition, ce n'est pas que descendant, il y a de la manipulation et un jeu, et notamment la représentation avec une balance Robert Val de ce que chacun finalement déploie comme tonnes de carbone, etc. Et le fait de se rendre compte que acheter des habits neufs, ça représente tant de tonnes par an, etc., a vraiment surpris énormément les étudiants, mais aussi, et puis du coup les enfants, mais sous forme de jeu qui permet quand même de dédramatiser. Ça me permet néanmoins vraiment de rendre concret ce que chaque personne finalement consomme et contribue à, d'accord, évidemment
pour,
à la pollution.
Pour trouver une image, en fait, vous permettez de peser l'empreinte carbone de chacun, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Ok, bon, effectivement, ça me permet de rentrer dans le concret. Le programme, il va être 2026, va bientôt être établi. Vous ne le connaissez pas, il n'y a pas des choses déjà, des villes connues
Pas encore, on en est au début du processus d'étude de ces demandes. Sur l'année 2025, on a déjà reçu une centaine de sollicitations, donc c'est une exposition qui est très demandée. Et je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Claire sur les manipulations au sein de l'exposition, alors, parce que j'en ai pas trop parlé.
Alors, on se fait manipuler dans votre exposition?
Non, tout l'inverse, on manipule.
Et alors, en fait, expliquez ce mot.
On manipule des parties de l'exposition. En fait, c'est une exposition à tiroir au sens propre et figuré. On tire des choses, on tourne des pages, on tourne.
Donc, on utilise ses mains pour faire
on
ça.
On utilise ses mains, on se positionne si c'est plutôt. On a un petit quiz, est-ce que c'est plutôt un sujet climat ou météo? Et donc, en fonction. Le visiteur se positionne. Enfin, on est dans l'action, on manipule et l'exposition est esthétique. Et c'est important, ouais. Elle est en bois, elle est en vrai bois.
En vrai bois de forêt,
oui,
c'est quoi comme essence?
C'est du hêtre et ça a été conçu par un menuisier à côté de Dijon. Et les contenus de l'exposition ont été pensés avec une agence d'exposition qui s'appelle Carte Blanche et on a pensé la moindre courbe pour qu'elle soit compréhensible. Visuelle, tout a été étudié. Et ce qui est important côté biodiversité, c'est que les illustrations qui sont sur l'exposition ont été faites à la main, à la base, par une illustratrice. Et ça se voit, et en fait, ça donne envie aux gens de faire une pause, de se plonger dedans pendant une heure et d'en profiter. Donc ça, c'est très important. Et sur la biodiversité, un des avantages collatéraux qu'on n'avait peut-être pas imaginé avant de lier ce sujet au climat, c'est qu'il y a beaucoup de récits sur les animaux, des anecdotes qui embarquent, le public, petit ou grand, c'est pareil.
Alors
qui émerveille.
Racontez-moi ça, parce que ça m'intéresse. Ça. Quel type d'histoire on peut raconter
Alors, par exemple, sur la biodiversité, il y a une partie de l'exposition qui explique ce que c'est que l'adaptation des espèces, donc sur des générations d'espèces et une évolution, ou une acclimatation de l'animal. Et donc, il y a une noix sauvage qui est peinte, qui est en grand, et
une
en
bernache.
Fait, on explique... c'est pas celle-ci, je connais plus le nom en latin, mais... et donc, au fur et à mesure des générations, s'est adapté pour pouvoir survoler l'Himalaya sur toutes ses fonctions corporelles, au niveau sanguin, pulmonaire, etc.
Sans oxygène en plus.
Voilà, avec une diminution notable de l'oxygène. Donc, et sur la partie sur l'acclimatation, on montre que le duvet sous les ailes de l'oie, en fait, quand il s'hérisse comme la chair de poule, permet d'incorporer de l'air et donc de tenir chaud, d'isoler en fait au sein du plumage. Ça, voilà, c'est très concret pour le coup, pour les visiteurs. Et voilà, c'est des exemples intéressants.
C'est aussi l'histoire d'un poisson qui peut vivre dans des eaux gelées, qui plaît beaucoup aux enfants.
Ah oui.
Qui a la température sanguine, ouais, qui a été modifiée pour s'adapter à la température de l'eau.
Donc là, ça vous permet effectivement d'identifier les thématiques auxquels sont réceptifs les différents publics. Et ça peut nous intéresser, nous, en tant qu'auteur, en tant que journaliste. On va aller vous puiser des idées, des infos.
Bah, j'ai une bonne nouvelle, parce qu'on parlait de la programmation, elle n'est pas encore prête, mais suivez-nous sur nos réseaux, hein, on est présents sur tous les réseaux. On a une exposition virtuelle en ligne sur notre site internet, avec tous les contenus que je décris là, de cette exposition en bois, qui a été captée et transformée en visite 3D. Donc on y voit, c'est pas des hologrammes, mais presque des scientifiques qui prennent la parole. On peut faire toutes les manipulations, c'est gratuit, c'est en ligne, et l'avantage c'est qu'on a beaucoup de visiteurs ou d'enseignants qui ont préparé leur visite grâce à l'expo virtuelle et qui viennent voilà, avec déjà quelques connaissances.
Bon, bah écoutez, on va peut-être que Théo, tu veux poser une question avant qu'on lance la pause musicale, dis-moi.
Oui, il me restait une question. Tout à l'heure, vous avez parlé des arbres des solutions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous mettez quand même un point d'honneur à souligner que c'est possible d'agir. Est-ce qu'il y a un état d'esprit qui ressort à chaque fois des interventions? Est-ce que, après, c'est des publics différents, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a plus de catastrophisme ou des gens qui veulent s'engager justement après ça?
Alors sur les contributions, comme ça arrive après le jeu de la balance, où on estime du coup l'impact de ces actions au quotidien, pour les enfants, c'est beaucoup les choses qu'ils peuvent mettre en place. Par exemple, aller en trottinette à l'école, si leurs parents les emmenaient en voiture, enfin ce qui est à leur échelle. Donc ça ressort dans les solutions. Et après, tout public confondu, et on le voit dans l'arbre des solutions, mais aussi dans un outil qu'on a développé pour évaluer le taux de satisfaction des visiteurs, ça s'appelle le baromètre de la mobilisation, et c'est important pour nous. On voit que l'alimentation parle beaucoup aux gens. En fait, on a des cônes en laine qui matérialisent au sein de l'exposition l'impact carbone d'une assiette, et donc qui montrent le poids de la consommation de viande rouge, de légumineuses, de laitage. Et en fait, c'est en trois dimensions, et c'est assez impressionnant, donc ça ressort beaucoup.
Bon, il va falloir qu'on aille faire un tour, déjà au moins sur internet, et puis on verra après la pause musicale comment on peut faire venir l'exposition dans sa fac, dans sa ville. Donc écoutez, on va passer là à... Je vais vous annoncer la musique. Donc je retrouve mes notes. La musique, ce sera Fleur de Giorgio Fit, Némir.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Si je fais un move pour toi, c'est de bon cœur, t'as pas à t'en rappeler. Une fois dans l'année, je déprime en profondeur, je reste en apnée. Je remonte à la surface, quoi qu'il se passe. J'ai mes deux bras, deux jambes, c'est pas si naze. Rien à faire de l'argent des autres, je m'émerveille devant des battements d'ailes. Y'a des espèces qui se font rares comme des crashs dans le ciel. Pensez pour moi-même comme Marc Aurèle. J'espère passer l'âge du Christ, éviter la crise de la quarantaine. Déjà petit, on m'a dit contrôle tes pulsions, ta colère. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. Paraît que l'essentiel est invisible pour les yeux. Je pense à mes ancêtres sous une terre poussiéreuse. C'est nous les plus haineux. Pas de je t'aime sans une insulte. Comme ça on reste dans notre confort et au final ça nous rassure. Mais je veux plus de ça. Et quoi qu'il arrive, je me rapproche des étoiles quand je vise la lune.
J'ai roulé toute la nuit, je crois que je perds le contact. Hey. Même en changeant de vie, j'ai fait le même constat. Hey. On fait pas la paix avec tes flammes. J'aime jouer avec mes bras.
Hey.
faille et je deviens menaçant. Nous on fait que d'entendre que c'était mieux avant. Il faudrait quoi qu'on s'arrête de vivre, on fait déjà comme on peut. Les meilleurs partent en premier, on fait sans eux. Parfois je critique les autres et je me sens aussi lâche. J'ai des potes nés après le premier album de Gorillaz. Ça change quoi au final, ça change rien, c'est que des chiffres. Si t'es dans un bad mood, dis-toi que c'est que des cycles. Je donne mon pardon à tous, mais y a pas tout qui se pardonne. Bousillé par le rap, les OGM et l'uranium. Je connais peu de missions, aussi dur qu'élever un homme. Regarde comment on se comporte, on est moins droit que le métronome. Vu sur les neiges éternelles pour me rappeler qu'on l'est pas. Millionnaire seulement en français FA et j'ai le choix. Contourner les obstacles ou les affronter. Là je suis perdu dans mes pensées.
J'ai roulé toute la nuit, je crois que je perds le contact. Même en changeant de vie, j'ai fait le même constat. On fait pas la paix avec tes plats. J'aime jouer avec mes pas. J'ai roulé toute la nuit, je crois que je perds le contact. Même en changeant de vie, j'ai fait le même constat. Fais pas la paix avec tes flammes.
Non, 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 non.
J'aime jouer avec mes
pas. Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes, donc l'écologie sur Aligre FM, pour parler de la tournée du climat et de la biodiversité. Alors Théo, tu voulais aussi poser une question sur comment faire venir la tournée dans ta fac, c'est ça?
Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'il y a un dossier à déposer pour vous faire venir?
Alors oui, on a mis en ligne sur notre site internet un formulaire à remplir et aussi qui permet d'évaluer si vous remplissez les critères pour accueillir l'exposition.
Ah oui, alors c'est quoi les critères de sélection?
Alors nous, c'est indispensable d'être ouvert au scolaire, d'être gratuit et de proposer des animations sur la mobilisation, les solutions. Donc, par exemple, on était au mois d'avril, pardon, à Bagneux Respire, à Bagneux, donc dans le cadre de l'événement Bagneux Respire.
Ah, c'est pas une ville qui s'appelle Bagneux Respire.
C'est un événement qui a lieu tous les ans. C'est le type d'événement dans lequel on s'inscrit. Après, on est ouvert, bien sûr, à aller dans les universités, mais il faut qu'on trouve une manière, comme ça a été le cas avec cette expérimentation, c'est la première fois qu'on le fait à Gennevilliers, à l'INSPE, d'être ouvert aux scolaires et aux grands public. Donc, il faut réfléchir ça. Mais
Donc, il faudra que tu fasses la sortie des écoles pour les faire venir à la tournée du climat.
Tout à fait.
Ok, bon. Ben, tu avais une question aussi sur un peu... je crois que tu voulais savoir, si tu parlais de l'empreinte carbone des...
militaires.
Des militaires.
Ouais. Bah, vas-y. Non, c'était par rapport à la fresque du climat.
Oui.
La fresque du climat, n'en parle pas. Mais bon, peut-être que c'est plus difficile. Et je ne sais pas, et ça serait ma question, c'est quel est le... disons l'atout d'arriver à raccrocher les wagons entre ce qui est purement climat et ce qui est biodiversité. Je vous dis ça parce que pendant très longtemps on a émis cette critique à l'égard de ceux qui étaient très branchés sur la question climatique en disant oui mais vous avez complètement oublié la biodiversité.
Alors déjà, la biodiversité subit le changement climatique. Également, plus elle s'altère, plus elle alimente le changement climatique. Et les solutions sont souvent croisées. C'est-à-dire qu'il y a plein d'écosystèmes qui sont des puits de carbone. Et donc, voilà, les sujets sont vraiment liés à tous les niveaux. Je pense aussi forcément aux océans et à ce que l'acidification liée au changement climatique implique pour la biodiversité marine, pour les coraux, pour tout l'écosystème marin. Donc, c'est totalement lié. Donc, on a intérêt à aborder les sujets ensemble et aussi à mobiliser les moyens en général, médiatiques, le temps d'espace, de parole, d'exposition pour parler de deux sujets.
Alors c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau de COP, hein.
Non,
on n'est qu'à la COP 16 pour la biodiversité, mais bon, c'est pas une course.
Non, et puis le lien est évident aussi sur la COP 30, la COP climat, puisque elle a lieu à Belém au sein de l'Amazonie, donc le lien avec la biodiversité semble évident.
Voilà. Alors effectivement, ça nous fait une transition. On va aussi parler dans une prochaine émission de la COP. Comme, on va pas dire comme tous les ans, parce que ça fait qu'un an qu'on existe. Mais bon, grosso modo, on risque de fêter l'anniversaire des arènes de l'écologie au moment de la COP climat à Belém.
Et ce sera le 10e anniversaire de la COP 21.
Voilà.
C'est ce que tu voulais dire, non, François?
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et la COP 21, c'est les accords de Paris. Donc, effectivement. Mais bon, non, l'idée que je me faisais, c'est qu'effectivement, on parle de COP, on parle d'accords. Je pense aux accords de Kyoto. Les accords de Kyoto, c'est 97. Et bien, les accords de Kyoto, c'est l'année de la naissance de ma première fille. Et bien, donc, effectivement, ça pose une vraie responsabilité pour nous qui traitons ces sujets-là depuis bientôt trop longtemps. Effectivement, la question se pose, c'est quid de la transmission, quid de la transmission de responsabilité pour pouvoir reprendre peut-être en main cet avenir qui se dégage et qui est déterminé aujourd'hui par ces problèmes de réchauffement climatique. Et effectivement, ça posera de plus en plus la question de l'émergence de nouveaux responsables acteurs de la génération, vous l'aurez tous compris, par exemple de Théo,
de Fanny.
Donc effectivement, il va falloir qu'on soit de plus en plus sur cette question de la transmission pour...
Mais ça, c'est une question pour Fanny aussi. C'est comme l'expo, qu'elle soit itinérante ou non, on s'en fout, mais j'imagine aussi qu'elle va devoir s'améliorer à fur et à mesure, parce qu'il y a des tas de sujets qui n'étaient peut-être pas abordés il y a 10 ans et qui le sont aujourd'hui. Ou peut-être qu'il y a des nouveaux sujets qui vont apparaître parce qu'on aura davantage d'infos sur telle ou telle zone géographique ou sur tel ou tel événement. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre, Fanny, sur cette...
Tout à fait.
Chantier.
On a déjà une petite correction à apporter à l'exposition qu'on n'a pas encore apportée, mais qui devrait l'être, sur la profondeur de la dernière carotte glaciaire, du coup, qui est remontée à bien plus loin. Donc, on doit mettre à jour ce chiffre. Et c'est tout à fait possible parce que sur cette exposition en bois, on a posé un autocollant, un sticker, et on peut poncer en fait une partie du bois pour mettre à jour les données.
Les carottes. Donc bien vous sûr. Allez éplucher les carottes.
Voilà.
C'est fantastique.
Alors bien sûr, pour le prochain rapport du GIEC, il faudra plus largement qu'on mette à jour l'exposition. Il suffira de poncer un peu plus grand.
Ok. Et qu'est-ce que vous dites à tous les gens, les jeunes ou moins jeunes, qui vous disent « Oui, mais bon, les COP, ça ne sert à rien ». Ça fait 30 ans qu'on est COP et puis il n'y a rien qui change, quoi.
Alors là, le président de notre association, Jean Jouzel, en parlerait beaucoup mieux que moi, mais je
Elle
pense
se défaut,
que ça a été prouvé que les différents COP ont quand même permis d'avancer, en tout cas de limiter l'évolution du climat.
Donc il y a un bilan positif à toute cette succession de COP, de machines diplomatiques qui peut être effrayante, ou en tout cas qui est quelquefois tournée en ridicule. Malgré tout, le multilatéralisme, le fait que l'humanité entière ait pris conscience de son destin, fait avancer le schmilblick, quoi, quand même.
Le fait d'attester du consensus scientifique, de se mettre autour de la table, de faire cet exercice, même si c'est évidemment complexe, oui, c'est indispensable.
Donc la tâche est dure, mais on devrait pouvoir y arriver quand même. C'est ça le message de l'optimisme.
Non, mais ce n'est pas de l'optimisme, c'est une façon de dire que quand il y a une volonté politique, comme il y a eu à Paris il y a 10 ans, ça permet justement de faire évoluer le schmilblick.
D'accord. Bon, en tout cas, on aura peut-être quelque chose à transmettre à nos générations
futures.
On arrive à peu près au bout de l'émission. On va pouvoir retrouver la tournée. Donc, c'est simple, j'imagine, sur Internet. On tape dans Google. Il n'y a même plus besoin de mettre un nom de domaine très clair.
Quoi,
mais bon, l'adresse.
On a choisi de mettre le nom en intégralité, tourneeclimatbiodiversité.fr. Et sur les réseaux sociaux, c'est tourneeclimbio, pour faire un peu plus court.
D'accord, bravo. C'est expéditif. Donc, écoutez, donc, on va naturellement remercier nos amis de la technique, Renaud, Poussin et puis Armand. Et puis annoncer l'émission de la semaine prochaine qui sera sur la mesure de l'empreinte carbone de la consommation avec la mise en place des éco-scores et des labels de mesure. Et donc on fera ça en compagnie de la chaire d'économie positive de UNESCO de Nanterre, même si Béatrice ne pourra pas être là parce qu'elle sera convalescente. Mais bon, donc en tout cas, merci à tous, bonne semaine et puis à la semaine prochaine.
Merci.
Merci. Merci.
Merci.
Tu remercies.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.